Salut frères et sœurs, je suis content de vous voir. Donc, c'est dimanche le 15 janvier déjà. Ça passe vite, hein? Il y a quelqu'un, mon frère a dit, c'est le dernier dimanche qu'on peut souhaiter à chacun de vous bonne année. Après le 15, c'est fini, c'est ça? Je suis déjà en retard. Bonne année à tous, mes frères et sœurs, que je n'ai pas souhaité bonne année. Une belle prière, un beau chant qu'on vient de chanter en ce qui concerne la parole de Dieu qui puisse venir nous parler. Donc, prions pour ça au Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, que on peut ouvrir ce matin, Seigneur, pour que tu nous instruis, Seigneur. Donne-nous un cœur réceptif, Seigneur, pour ta parole. Et permets qu'on puisse, Seigneur, entendre, non seulement l'entendre, mais aussi la mettre en pratique, Seigneur. Merci encore pour ces cadeaux, pour cette grâce de la vie éternelle en Jésus-Christ, Seigneur. Merci parce que tu as donné ton Fils, Seigneur, puis il est venu, il est mort, il est ressuscité et il nous prépare une place, Seigneur, pour qu'un jour on puisse être avec toi devant ta face et seulement par ta grâce. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses bénir ce temps. Au nom de Jésus, ton Fils, nous te prions, justement. Amen. Oh, c'est vrai, je ne sais pas si je suis avec mes micros, mais c'est correct. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous continuons encore avec l'étude de la lettre aux Romains, Romains 13. Si vous avez votre Bible déjà, je vous invite déjà à ouvrir votre Bible dans Romains 13, chapitre 13. Puis on va finir aujourd'hui ce qu'on a commencé dimanche passé. On a étudié du verset 1 au verset 7. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la suite. Donc, on va finir le chapitre 13 de Romains. Du verset 8 au verset 14, donc 7 versets la semaine passée, 7 versets aujourd'hui. Donc c'est vraiment le dernier. Toujours dans cette section pratique de la lettre qui commence dans le chapitre 12 de cette lettre aux Romains jusqu'au chapitre 15 environ, on voit trois aspects. Dans ce chapitre 13, on voit trois aspects et pratique du chrétien dans ce chapitre. Donc, concernant les autorités, on a vu la semaine passée, vous vous rappelez, concernant les autorités du verset 1 à 7. Aujourd'hui, nous allons voir deux autres aspects, concernant nos frères et sœurs, et concernant aussi le retour de Jésus. On a chanté tantôt, en ce qui concerne aussi le retour de Jésus, quelle est notre attitude comme chrétien, savoir que notre Sauveur revient. Donc, concernant nos frères et sœurs, versets 8 à 10, et concernant le retour de Jésus, 11 à 14. Déjà, je vous invite tout de suite à pouvoir ouvrir vos Bibles dans 13, 8 à 14. Mais, concernant les autorités, la semaine passée, nous avons vu le chapitre du verset 1 à verset 7. Nous avons déjà étudié où le message, un peu le résumé dans cette phrase, « Soumettez-vous aux autorités, il dit. Toutes les autorités officielles dans notre société, gouvernement, toutes les autorités, la police, tout. Et pourquoi? On a vu avec le pasteur Richard, c'est Dieu qui a mis ces autorités en place, le gouvernement, le président, les premiers ministres. Pourquoi? Parce que Dieu punit aussi et récompense par elles, par ces autorités qu'il a établies. Pourquoi aussi? Par motif de conscience. Parce que les chrétiens veulent faire ce qui vient aux yeux de Dieu. Et comment le faire? Il y en a qui n'aiment pas ces mots-là, ces deux mots-là, en payant nos taxes et les impôts. En rendant à chacun ce qui est dû, la taxe, la crainte, l'honneur aussi. Comment? C'est de cette façon-là. Et donc aujourd'hui, nous allons étudier, dans les derniers versets, les deux autres aspects que j'ai mentionnés tantôt. Donc, concernant nos frères et sœurs, chapitre 13, mais nous allons lire tous les versets, chapitre 13, 8 à 14, s'il vous plaît. Vous avez tous vos Bibles dans Romains 13. Donc, on commence par le verset 8. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas et tout autre commandement se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni de règlement, sans discorde, ni de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc c'est très pratique ce que l'apôtre Paul nous recommande, nous exhorte ce matin par ces 7 versets. Donc on va voir, comme je dis tantôt, concernant nos frères et sœurs du verset 8 à 10. Donc notre passage commence par cette phrase. « Ne devez rien à personne », dans le verset 8. Et souvent, ce verset, quoi qu'il en parle aussi quand il dit « ne devez rien à personne », souvent ce verset a été utilisé pour justifier l'idée que tout endettement, tout crédit qui en soit, est mauvais et condamné par la parole de Dieu, et disant qu'il faut payer toutes nos factures comptant, et qu'il ne faut pas emprunter, pour n'importe quoi, pour une maison, que ce soit pour une construction d'un bâtiment, l'église. D'ailleurs, nous avons fait un petit emprunt, je pense, il y a 20 ans, je crois. Pour rénover un peu ici le bâtiment. Mais il y en a qui pensent que ce verset nous enseigne ça, ni la construction même d'un projet que nous avons en tête. Donc, il y en a qui utilisent ce verset pour dire qu'emprunter, c'est mauvais, c'est contre la parole de Dieu. Mais il est vrai que le proverbe traite de la question des dettes qui nous rendent esclaves même. Mais malheureusement, l'endettement est souvent le fruit de la convoitise qui nous pousse à vivre au-dessus de nos moyens. C'est ça le problème. Donc nous devons vivre selon nos moyens et nos capacités financières. Mais d'emprunter et de rembourser selon les termes prévus ne sont pas mal en soi. Mais je ne dis pas non plus que ce n'est pas mauvais de dire « je ne veux pas avoir des dettes ». C'est bien ça aussi, ne pas avoir des dettes, ne pas devoir à personne rien. C'est bien ça aussi, mais en vous et moi, c'est un peu difficile ici dans notre société. Qui a une maison, mais Dieu merci, par la grâce de Dieu, nous avons une maison et nous payons à tous les mois. Un emprunt, c'est-à-dire à tous les mois. C'est sûr qu'il faut le payer à tous les mois, parce que si on ne paye pas tous les mois, et si on ne peut pas payer une maison, donc il va falloir peut-être la vendre et habiter une maison plus petite, un appartement, ça dépend. Il y en a qui ont fait le choix d'habiter un appartement, pas parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils veulent habiter dans un appartement, c'est tout. Donc, nous devons vivre selon nos moyens. Même d'emprunter, il y a des chrétiens qui font des prêts entre eux aussi. C'est ça, je veux aussi savoir à qui emprunter. Des fois, on prend des mauvaises décisions, on fait un emprunt à des compagnies qui font des taxes d'intérêt, qui chargent d'intérêt de 30%, et on se trouve très, très endetté à cause de ça. Donc, il faut quand même être sage en ce qui concerne l'emprunt ou le crédit. Par contre, le psaume 112, 5, il dit « Il est bon qu'un homme fasse grâce et qu'il prête et qu'il règle ses affaires d'après le droit, selon ce que la Bible enseigne, selon un principe biblique. Donc, en examinant le contexte qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, donc le verset 7, on a lu tantôt le verset 8, le verset 7, la conclusion de l'enseignement sur la soumission aux autorités est présentée sous la forme d'une dette, de rendre à chacun ce qui lui est dû, la taxe, l'impôt, la crainte, et l'honneur. Donc, il parle en termes d'une dette. Et dans ce contexte, la dette ne fait pas principalement référence aux obligations financières. Mais, oui, on peut l'appliquer aussi, parce qu'il est en train de dire, ne devait rien à personne, mais il vient du verset 7 avec ce principe. Puis Paul, il fait cette expression-là justement pour parler de l'amour vers notre frère et sœur comme une dette. Donc, Paul continue avec le même raisonnement en parlant de notre dette envers tous, c'est-à-dire l'amour. Il ne s'agit pas d'une dette financière, mais relationnelle. Comment on dit tantôt? Sœur ternelle. Ouais, c'est un nouveau mot à prendre. Avant, je m'ai trompé, je disais... qu'est-ce que je disais? Sauterelle, pardon. Mais sœur ternelle, donc. Et il ne fait pas référence vraiment en premier lieu pour les obligations financières, mais aimer son frère comme une dette. Il ne s'agit pas d'une dette financière, mais relationnelle, et que nous ne pourrons jamais liquider. Il parle de l'amour comme une dette continuelle envers notre frère et notre sœur. C'est une dette, en fait, permanente et imposée par qui? Par Dieu même, qui nous avons envers nos frères et nos sœurs. Donc, imposée par Dieu même, c'est une dette permanente. Quelqu'un a déjà dit en faisant un commentaire de ce que l'apôtre Paul est en train de dire, je pense que c'est même Origène, un des pères des églises, qui a mentionné que votre seule dette soit d'aimer, une dette que vous devez toujours essayer de payer complètement, mais dont vous ne réussirez jamais à vous en acquitter. Donc, aimer son frère, toujours. Ou quelqu'un a dit aussi, nous avons une dette perpétuelle avec Christ par l'amour dont il nous a comblé. La seule manière de commencer à payer cette dette et d'aimer les autres. Ses frères et sœurs pensent que l'amour de Christ sera toujours infiniment plus grand que le nôtre. Donc, nous aurons toujours l'obligation d'aimer nos frères et nos sœurs en Christ. Donc, c'est pour ça qu'il dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et Paul ajoute à la fin de cette phrase, celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc, de quelle façon le chrétien accomplit la loi? Il développe dans le verset 9 à 10, si vous avez votre Bible avec vous, il développe cette notion d'accomplissement dans le verset 9 à 10. Il dit, en effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, et tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Et d'autres commandements, même ici, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour, donc, est l'accomplissement de la loi. En d'autres termes, la loi pointe vers l'amour. Jésus même mentionne dans Luc 10, 25 à 28, quand un docteur, il s'approche de lui, il dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Il dit, « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi ? Qui lis-tu ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Qui résume toute la loi à aimer son prochain. Ou encore, dans Matthieu 22, 36 à 40, quand un docteur de la loi même pose cette question à Jésus, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second. Il lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi. Et même les prophètes, ils parlent. De ce commandement, il dépend toute la loi et les prophètes. Donc, si nous revenons au verset 8, et remarquons que pour le chrétien, le commandement principal, selon ce qu'écrit l'apôtre Paul, et de s'aimer les uns les autres. Il dit, ne devez pas, rien à personne, pardon, sinon de vous aimer les uns les autres. C'est vraiment le commandement qui fait emphase l'apôtre Paul. On ne dit pas que le chrétien doit observer ou doit obéir le commandement de la loi. Par contre, le chrétien accomplit la loi, Comment en aimant son frère selon l'enseignement de Jésus ici? Nous lisons dans Romains 8, 3 à 4, il dit 8, 3 à 4, pardon. Car chose impossible à la loi, parce que la chair le rendait sans force, Dieu en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, et c'est là pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons selon, nous ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ou encore dans Romains 7, 6, qu'on a étudié. D'ailleurs, ce passage-là de Romains 13, Paul mentionne pour la dernière fois vraiment la loi. Donc après, il ferme cette notion de ce qui est la loi pour les chrétiens. Donc plus tard, il ne parlera plus de la loi. Il va parler plutôt des choses plus pratiques. On va voir aussi en ce qui concerne l'amour. On va voir aussi la semaine prochaine dans le chapitre 14. Il va parler aussi de l'amour envers les autres frères et sœurs. Donc, nous lisons dans Romains 3, 4 aussi, dans Romains 7, 6, il dit, « Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui est, nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit. Maintenant, nous servons sous le nouveau régime de l'esprit, et non plus sous le règne ancien de la lettre. » Donc, le chrétien, nous, comme chrétiens, nous sommes soumis au commandement de Christ dans cette nouvelle alliance, c'est-à-dire l'amour, s'aimer les uns les autres. Nous lisons dans Galates aussi 5, 13 à 14, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, mais, il dit, selon, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns les autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » En réalité, ce que Jésus mentionne dans Jean 14, 34 à 35, il dit, « Je vous donne en quoi ? Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres ? » Et ce qui est nouveau, qu'est-ce qui se rajoute ? Comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns les autres. Tout est centralisé sur l'amour. Il dit, à ceci, ils connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Pas comme l'apôtre Paul, à un moment donné, il utilise l'expression « vous mordrez entre vous ». Mordre, c'est quand même drôle, mais non, il ne faut pas. Il faut vraiment s'aimer les uns les autres, selon le commandement de Jésus. Et l'apôtre Paul rajoute, l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour ne fait pas de mal à mon prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, je dois aimer l'autre, rechercher ce qui contribue à son bien. Voilà ma dette envers mes frères et ma sœur. Aimez mon frère et ma sœur. Parce que j'aime mon épouse, ou vous aimez votre mari, je ne veux pas la tromper. Si j'aime mon frère, je ne veux pas le faire mourir ou faire du mal, ou le voler, ou prendre quelque chose qui lui appartient. Cet amour, nous le devons toujours aux autres. Je ne pourrai jamais dire un jour, c'est assez, j'ai dépassé tout mon amour envers toi. C'est fini là, je t'ai aimé, j'étais trop aimé. On ne peut pas dire ça à nos frères et sœurs. Donc il faut toujours l'aimer. Comment donc l'aimer? Il y a plusieurs façons de montrer l'amour à notre frère et notre sœur. Oui, c'est vraiment par nos mots aussi, nos encouragements. Mais la Bible aussi nous exhorte à le faire par action. Jean, dans ses épîtres, il mentionne là que vraiment il faut aimer d'action. Même Jacques aussi. Et notre amour soit démontré par nos actions. Mais nous nous rappelons le temps que nous avons passé difficile, passé des temps difficiles en famille. Vous savez la raison pourquoi on a passé des temps difficiles. Et nous avons vu l'amour de nos frères et sœurs, vraiment très concret, de façon très concrète. Et non seulement des encouragements, non seulement des textos qui nous encouragent. Quand vous recevez un texto et puis vous recevez un verset qui vous aide, qui vous donne la consolation, c'est très bon. Mais aussi, je me rappelle qu'il y a des frères, des sœurs qui frappaient à la porte, qui nous laissaient des plats pour manger, des très bons plats. Moi, je suis très difficile pour la nourriture, OK? Mais je remercie le Seigneur parce qu'on avait, à un moment donné, on avait deux, trois choix à manger. Et puis moi, je suis difficile. Pour ceux qui me connaissent, là, déjà, je n'aime pas les concombres. C'était presque un péché pour certains que je n'aime pas les concombres, mais c'est comme ça. Je suis comme... Et vous m'aimez pareil, hein, j'espère, à cause de ça. Mais on apprend avec toutes ces choses-là. Et puis vraiment, à un moment donné, il y a quelqu'un qui laisse quelque chose. Je vois dans le frigo, il dit, je ne mangerai pas ça du tout. Mais quand même, je dis, ils sont forcés pour préparer. Je vais donner à mes enfants. Je vais laisser ça pour mes enfants, je vais me sacrifier. Mais j'ai mangé, oh, c'était excellent, vraiment excellent. Donc, il faut être ouvert. Plusieurs me disent, hey, il faut être ouvert à goûter des choses. Mais en tout cas, je suis difficile. Priez pour ça, pour que je puisse être plus ouvert. Mais c'est concret, l'amour entre nos frères et sœurs. Plusieurs exemples, on peut en donner. Des encouragements, comme j'ai dit. Des fois, des déménagements, des fois, on est prêt à aider notre frère et notre sœur par nos actions. Même comme on a dit aussi, des fois, on peut emprunter quelque chose à notre frère, l'argent ou des choses. Mais rappelez-nous ce que Jean mentionne dans sa première épître. Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que quoi? Parce que nous aimons nos frères. Waouh, c'est vraiment le signe comme quoi on est des vrais chrétiens parce que nous aimons les frères, il dit l'apôtre Jean. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Les mots sont durs, hein, ce qu'utilise l'apôtre Jean. Là. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Frères et sœurs, est-ce que vous aimez votre frère? Aimez-vous votre sœur? Vous n'avez pas le choix. Hein? La Bible nous dit d'aimer nos frères et nos sœurs. C'est vraiment un impératif. Il est en train de nous dire, aimez votre frère, aimez votre sœur. Malgré son arrière-plan, malgré, je sais pas moi, ses goûts, ses choix, malgré qu'il n'aime pas manger quoi que ce soit, malgré qu'il est difficile, malgré qu'il y a un caractère un peu difficile, il y en a des fois que quelqu'un nous tape, comme on dit en bon québécois, il me tape sous les nerfs, en tout cas. Je ne suis plus capable, je ne peux pas le sentir. Je pense que cette expression-là, ça ne devrait pas être entre nous comme chrétiens. Oui, des fois, on a des tempéraments différents. Des fois, nous avons des idées même différentes, mais nous devons nous aimer par-dessus toutes ces choses-là. Parce que Dieu nous a aimés en premier. Tel que nous sommes, malgré nos faiblesses, il nous aime. Et nous devons aussi aimer nos frères, nos sœurs. Est-ce que cela est possible, pensez-vous? Oui, cela est possible. Nous lisons dans Romains 5:5. Or, l'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. C'est vrai qu'on peut le faire. Des fois, des choses semblent impossibles, mais on peut aimer nos frères et sœurs malgré nos différences, malgré nos cultures aussi. C'est vraiment un bel exemple ici, notre Église, culture différente, latino, africain, français, et quoi d'autre? Québécois, haïtien, qui a dit haïtien très fort là? Qui d'autre? Péruvien même. Donc, C'est pas facile, mais... Mon frère, tu vois, c'est pas facile, mais avec le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, c'est possible. C'est ce qu'il dit là, dans Romains, le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Comme Pasteur Richard disait la semaine passée, là, il disait, c'est pas quelque chose de naturel. Là. C'est vraiment le vrai chrétien qui peut aimer son frère et peut aimer sa sœur, malgré tout. C'est sûr que, des fois, le péché est devant... quand on voit un frère qui est dans le péché, oui, c'est vrai, nous devons l'aimer, mais nous devons aussi l'encourager, l'exhorter fortement à laisser ce péché, à s'en débarrasser avec l'aide de Dieu. Donc, aimer, c'est aussi exhorter. Aimer, c'est aussi encourager. Et des fois, il y en a qui préfèrent beaucoup exhorter, mais c'est vrai, ça fait partie de l'amour envers nos frères et sœurs. Donc, nous devons nous aimer. En attendant le retour de notre Seigneur Jésus, sans nous conformer à ce monde, comme on l'a vu du début du chapitre 12. Mais il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, de notre intelligence, et c'est l'exhortation de l'apôtre Paul dans les prochains versets. Donc, concernant maintenant le retour de Jésus, versets 11 à 14. Donc, dans ces versets-là, 11 à 14, Paul termine cette section par une exhortation à la vigilance et à la sanctification fondée sur le retour de Jésus. Plusieurs impératifs dans ces paragraphes. Donc, commençons par le verset 11 et 12a, peut-être, la moitié du verset 12. Et d'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller. Vous, les endormants, là. C'est l'heure de vous réveiller, il dit, afin du sommeil, il dit, car maintenant le salut est plus près. Et ça, c'est vrai, ça, c'est vrai pour les gens qui ont lu à l'époque, et même c'est vrai pour nous aussi. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, il dit. La nuit est avancée, il utilise des exemples, la nuit est avancée, le jour, ce grand jour approche. Lorsque nous ne veillons pas, nous nous éloignons et nous nous relâchons malheureusement. La parole nous avertit que des moments difficiles vont précéder le retour de notre Seigneur. Ce n'est pas parce que nous vivons dans une paix relative, dans ce pays, mettons, que nous devons dormir spirituellement. Et chaque jour qui passe nous rapproche du jour du retour du Seigneur Jésus dans la gloire. Et donc, comme Marc, l'évangile de Marc, dans le verset 13, 32 à 33, nous dit, dans le chapitre 13, pardon, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le connaît. Pas même les anges dans le ciel, c'est Jésus qui parle. Pas même le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez, il dit, veillez et priez, car nous ne savons pas quand ça sera le moment. » Donc, c'est quoi l'exhortation dans ces... C'est la même chose que Paul nous dit. Veillez, veillez. Nous savons qu'il va revenir. Mais nous ignorons le jour, le mois, l'année. Et donc, son retour ne doit pas nous pousser à calculer tel jour, approximativement. Comme on a vu pendant la pandémie, j'ai vu plusieurs choses sur Facebook, YouTube, là, que les chrétiens c'est le dernier temps. Donc, puis ils se sont mis, au lieu de veiller, ils se sont mis à calculer un peu, tomber dans des histoires, là, pour calculer le jour exact de la venue du Seigneur. C'est pas ça ce que la Bible nous exhorte. C'est vraiment à veiller, à attendre le retour de notre Sauveur. Rappelons-nous aussi que ce jour de jugement sera terrible pour ceux qui l'auront rejeté, pour ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ. Oui, nous sommes privilégiés, nous avons vu ce matin, nous sommes cohéritiers avec Christ par la foi, à cause de sa grâce. Mais rappelons-nous, frères et sœurs, les jours avancent, nous sommes plus près du salut que quand nous l'avons connu. Mais rappelons-nous aussi que c'est un jugement terrible pour ceux qui ne le connaissent pas. Je sais que vous avez de la famille qui ne connaît pas l'amour de Dieu, vos collègues même, même des enfants peut-être, qui encore priez pour eux, prenons le temps de pouvoir partager cette bonne nouvelle, l'Évangile, pour qu'ils soient sauvés et puissent avoir ce même privilège que nous avons, nous qui croyons en Jésus, qu'il va venir nous chercher et nous serons toujours avec lui. 12b, le verset 12b, il dit « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Encore une autre exhortation. Les chrétiens, souvent l'apôtre Paul utilise des termes comme des soldats. Ce sont des soldats qui ont besoin d'être équipés pour le combat. Qui ne connaît pas Éphésiens 6 qui parle de l'armure du chrétien? Et dans 1 Thessaloniciens 5, 8, il mentionne l'apôtre Paul « Mais nous qui sommes du jour, soyez sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour ainsi que le casque de l'espérance du salut. » J'avais un autre verset aussi. Dans Colossiens 3, 5 à 7, il dit « Faites donc mourir notre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'idolâtrie. C'est pour cela qu'il vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. La colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Et ne mentez pas les uns les autres. Vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle. Être dans la lumière, plusieurs fois dans la Bible, ça rapporte souvent à mener une vie droite et qui plaît à Dieu, qui honore Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, 4 à 5, l'apôtre Paul dit, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour ne vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. » C'est pour ça qu'il continue dans le verset 13, « Marchons honnêtement comme en plein jour, » en faisant allusion aux ténèbres, « sans excès de table ni de boissons, sans luxure ni de règlement, sans discorde ni jalousie. » Donc, la vie chrétienne, vraiment, c'est une marche dans laquelle nous avançons. L'apôtre Paul nous exhorte que nous marchions dans les progrès, en progrès. Il dit « La lumière éclaire nos ténèbres et nous montre ce dont nous devons nous débarrasser. » Donc, ces péchés que l'apôtre Paul nous montre, et il le fait dans trois groupes de deux. Excès des tables et des boissons, c'est-à-dire l'ivresse. C'était très commun à l'époque, dans la société romaine, là, mais aussi partout le monde, lorsqu'il est dans le temps. Paul écrira plus loin qui dit que le royaume des dieux n'est pas ni le manger ni le boire. Il dit. La luxure, il dit, c'est-à-dire la recherche immodérée des plaisirs sexuels. Donc c'est la luxure. Et le dérèglement font référence à des orgies romaines, à tout péché sexuel, qui n'ont pas leur place dans la vie du chrétien et dans l'Église. Dans notre société hypersexualité, nous vivons dans une société comme ça, où tout est ouvert et permis, il nous faut veiller et nous battre sans cesse. Vous savez, on est bombardé par toutes ces choses-là. Nos enfants, dans les écoles, avec des cours, et même de sexualité, là, ils montrent tout ouvertement aux jeunes enfants. Donc, nous devons veiller sur ça. Nous devons enseigner nos enfants, nous devons faire attention. Et dans ce monde-là qui nous entoure, non seulement les enfants, mais nous-mêmes, dans cette société qui nous entoure. L'apôtre Paul parle aussi de la discorde et de la jalousie. Selon les chapitres 14 et 15, nous savons qu'il y en avait entre les chrétiens même, d'origine juive, et ceux d'origine non-juive, les Grecs aussi. Donc un chrétien qui marche honnêtement voudra donc rejeter les œuvres des ténèbres. J'ai toujours dit à mes enfants, je parlais beaucoup avec mon fils, le premier, j'ai toujours enseigné, j'ai dit, on ne peut pas éviter, on ne peut pas éviter que les oiseaux volent sur ta tête. Ça on ne peut pas l'éviter, là. Et ce qu'on peut éviter, c'est qu'ils fassent des nids sur notre tête. Ça, on peut l'éviter. OK? Mais les oiseaux, ils vont toujours sur notre tête, là. Ils vont voler, même au McDo, si vous allez au McDo, là, pas des oiseaux, il y a des gros mouettes. Mais ce qu'on peut éviter, c'est qu'ils fassent des nids sur notre tête. Ça, on peut éviter avec l'aide de notre Dieu. Et donc, nous devons nous dépouiller de toutes ces choses-là. Nous devons aussi ne pas nous laisser influencer par les pensées du monde. Comme le chapitre 12, le début, nous enseigne. Nous sommes vraiment frères et sœurs et influencés par ce monde qui nous entoure. Même si nous avons une vie pieuse devant Dieu, il faut toujours faire attention. Il faut toujours veiller. Comment on fait ça? C'est vraiment avec l'aide du Saint-Esprit, en étudiant la parole de Dieu. Quelqu'un m'a appelé cette semaine, il m'a dit, « Mon frère, j'aimerais savoir pourquoi il faut étudier la parole de Dieu. Est-ce qu'un chrétien, pourquoi lire la parole de Dieu? » Donc, j'ai eu une longue conversation avec cette sœur, là, comme quoi la parole de Dieu est vraiment primordiale et vraiment importante dans notre vie comme chrétien. C'est par là que Dieu nous parle. Et c'est par là qu'on peut savoir sa volonté. L'apôtre Paul finit dans le verset 14, mais, c'est ce que j'aime de ce passage, la fin de ce passage-là, il dit, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » C'est beau cette image-là, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Cette image est souvent employée par l'apôtre Paul. Dans Galates 3, 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, il dit, vous les chrétiens, vous avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ même, il mentionne, dans Galates 3, 27. Dans Colossiens 3, 9 à 10, il dit, ne mentez pas les uns les autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle, qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance. Quoi? Et ce qui est important, selon l'image de celui qui l'a créé. Selon l'image de celui qui l'a créé. C'est pour ça, ça veut dire revêtir notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, dans le chapitre 8, dans le verset 5 à 9, l'apôtre Paul nous dit vraiment très clair ce qui concerne le soin de la chair, satisfaire les convoitises. Il dit en effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir des tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour nous, il dit les chrétiens, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est des gros, des mots très forts. Et c'est une réalité. Celui qui vit selon la chair, on peut en douter même des fois que peut-être il n'a pas compris l'Évangile. Donc, s'aimer les uns les autres, revêtu du Seigneur Jésus, et en attendant son retour, c'est ce qui résume l'exhortation de l'apôtre Paul dans le verset que nous venons d'étudier. Donc, s'aimer les uns les autres, revêtus du Seigneur Jésus-Christ, en attendant son retour. C'est trois choses. J'essaie de faire le lien entre ce que l'apôtre Paul dit en ce qui concerne aimer son frère et le retour de notre Seigneur. Et Jude nous éclaire là-dessus, et aussi, même l'apôtre Paul, dans Tite, dans le verset 11, chapitre 2, 11 à 14, mais Jude, il dit, « Pour vous, bien-aimés, dans le chapitre 1, verset 20 à 21, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Maintenez-vous. » Ça va dans le même sens que l'apôtre Paul, dans l'amour de Dieu. Et dans Tite 2, il écrit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Il nous enseigne cette grâce à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. » Il l'appelle du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes, pour les bonnes œuvres. Frères et sœurs, nous avons été justifiés par la foi en Jésus. Nous avons été justifiés par la foi, c'est ce que l'apôtre Paul a enseigné dans les chapitres auparavant. Nous avons été pardonnés, sauvés, en attendant son retour. En réalité, c'est notre espérance. Aimons-nous, soyons transformés par son esprit, sachant que tout cela est passager. Sauf l'amour. L'apôtre Paul mentionne dans 1 Corinthiens 13, 8, l'amour ne succombe jamais. C'est-à-dire, l'amour ne périt jamais. En réalité, nous allons toujours aimer nos frères. Et nous allons aimer même Dieu, si nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Jean nous dit que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais l'amour ne périt jamais. Et Jean mentionne dans 1 Jean 4, 7, 8, pourquoi? Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu, il connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il y avait même une chanson avant qu'on chantait, Dieu est amour, et puis on disait dans le chant, en Jean 4, 8. Donc j'ai appris ces chants-là depuis mon jeune âge, là, et ça fait longtemps. Et Dieu est amour, et c'est en Jean 4, 8 qu'il est dit. C'est pour ça que l'amour ne périt jamais. L'amour ne succombe jamais. Et je vais finir avec ce dernier verset dans 1 Corinthiens 13, qui dit maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, c'est vrai, croyons en Jésus-Christ, ces choses-là demeurent, présentement ils demeurent. La foi qui nous aide à pouvoir plaire à Dieu, croyant en ses promesses, croyant en ce qu'il nous dit. L'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Amen.